France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, les scènes de désolation et de chaos en Birmanie. Le bilan très provisoire est d'un millier de morts et plus du double de blessés. Les recherches sont délicates. Certaines zones géographiques sont encore inaccessibles. Et nous irons également en Thaïlande, la Thaïlande voisine où une tour en construction s'est effondrée sur les ouvriers. Quelles sont les méthodes de secours dans une telle catastrophe en Birmanie? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité, cofondateur de l'ONG Architecte de l'Urgence. Nous serons également en Turquie où les opposants au régime d'Erdogan sont réunis en ce moment. 10 jours après l'arrestation du maire d'Istanbul, il y aurait des centaines de milliers de personnes rassemblées en ce moment. Et en Corse, la mort d'une figure de la brise de mer, Robert Moracini. Il a été tué par balle ce matin devant son domicile de Bastia. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin dans un garage automobile qui se décrit comme féministe et il propose aux femmes de suivre des cours de mécanique, un garage par les femmes, pour les femmes.
On doit être capable aussi de se débrouiller, de ne pas avoir besoin d'un mec. On peut aller mettre les mains dans le cambouis aussi.
Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta, avec encore beaucoup de vent près de la Méditerranée.
Oui, Mistral et Tramontane se renforcent avec des rafales qui dépasseront les 100 km à l'heure.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Les propositions d'aide humanitaire arrivent de toutes parts en Birmanie pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Les rares associations sur place décrivent des paysages dévastés, des situations sanitaires dramatiques dans cette Birmanie où 4 années de guerre civile ont mis à mal le réseau hospitalier. Mais c'est en Thaïlande que nous allons pour ouvrir ce journal. Dans cette Thaïlande voisine où les dégâts sont moindres, il y a tout de même au moins 9 morts, pour la plupart des ouvriers d'un gratte-ciel en construction qui s'est effondré. 100 personnes à l'intérieur sont portées disparues et selon les secouristes au pied de cette tour effondrée, 50 personnes seraient encore vivantes dans les décombres. Reportage à Bangkok de notre envoyé spécial, Valentin Dunat.
Les pelleteuses s'activent depuis plus de 24 heures au milieu de cet immense amoncellement de gravats, les restes d'un immeuble de 30 étages. Vassan, l'un des secouristes, m'explique qu'il connaît la position exacte des personnes mais qu'il ne peut pas pénétrer facilement. Est-ce que vous les entendez ? Non, pas de voix. La seule preuve de vie, c'est le rythme cardiaque capté par des drones équipés de caméras thermiques. Est-ce que vous êtes habitué à ce type de secourisme ? L'effondrement de bâtiments, me dit-il, c'est très rare, mais il compare ça aux accidents de la route où les automobilistes se retrouvent avec des morceaux de carrosserie qui appuient sur le corps des blessés. Là, c'est donc la même chose dans les décombres. Il faut donc agir délicatement. Au pied de ce bâtiment, juste à côté des barrières de sécurité, il y a des dizaines de personnes qui attendent des nouvelles de leurs proches. C'est le cas de cette femme qui recherche sa sœur. Elle travaillait dans l'installation électrique de ce bâtiment.
J'aimerais entendre ma sœur. Elle est encore en vie.
Comment le savez-vous, ça ?
Je ne fais que prière.
Elle conclut en disant qu'elle compte bien rester ici jusqu'à ce que les secouristes retrouvent sa sœur.
Voilà donc pour ce reportage parmi les secouristes en œuvre, à l'œuvre à Bangkok. Reportage de Valentin Dunat avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Le séisme d'hier a donc fait plus de 1000 morts et 2500 blessés. Bilan largement provisoire, disent les experts, compte tenu de la violence des secousses. Écoutez ce témoignage. Il est français de Birmanie. Eric Glover habite Rangoon, la plus grande ville birmane où les dégâts semblent limités.
Yangoon, c'est plutôt calme. Et si vous voulez, il y aura des répercussions de ce drame dans l'ensemble du pays. Il y a d'abord les gens qui sont coincés. Je sais qu'à Mandalay, il y a une agence bancaire, par exemple, qui s'est écroulée. 40 personnes qui sont restées coincées dedans, à crier, avec tout le travail de trauma qu'il y a derrière, sachant que c'est un pays où personne ne va prendre en compte les traumas. Il n'y a pas de structure pour cela. Ensuite, ici, à Yangoon, eh ben, on n'a plus d'électricité. L'eau courante est coupée parce qu'il n'y a pas de possibilité d'électricité. Les infrastructures de téléphonie ne fonctionnent plus. Très partiellement parce que les antennes relais n'ont plus d'alimentation, il n'y a plus de fuel pour celle-là. Il y a tout un ensemble de choses qui sont quand même très complexes et évidemment ça veut dire que de l'aide va être prévue, ça va être très compliqué de la faire venir, ça va être très compliqué d'estimer les choses.
Voilà, la Birmanie, pays en guerre civile avec une junte au pouvoir qui n'a pas l'habitude d'ouvrir facilement ses frontières, junte militaire qui a tout de même lancé malgré tout un appel à l'aide internationale. Comment peuvent travailler les humanitaires étrangers ? Eh bien, on en parle avec vous. Patrick Coulombel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de l'ONG Architecte de l'Urgence. Cet appel à l'aide internationale venant des autorités birmanes ne semble pas très précis. Rien, a priori, par exemple, sur les besoins réels. Comment entendez-vous cet appel ?
J'essaie de l'entendre de manière le plus favorable possible. Je pense qu'ils ont un énorme problème à régler, qui est notamment sur le sauvetage des bléments, parce qu'il y a des bâtiments qui sont tombés. Je pense notamment à la ville de Mandalay qui a sûrement durement souffert, parce que on est très très proche du séisme, quasiment sur l'épicentre, et on est sur la faille. Donc évidemment, à cet endroit-là, il y a un vrai sujet. Mmh. Et là, je pense qu'ils vont avoir besoin de sauvetage et d'éblément, mais de manière très très urgente. Mmh. Donc c'est à déployer tout de suite.
Et Mandalay, deuxième ville de Birmanie, on a appris ce matin que dans cette zone la plus touchée, Mandalay, plus de 90 personnes seraient piégées dans un bâtiment d'habitation détruit. Y a-t-il une méthodologie précise qui doit être respectée pour sauver les personnes ensevelies dans des cas similaires ?
Vous savez, ce qu'on dit souvent, c'est que sur des séismes comme celui-ci, 90% des gens que l'on va sauver ont été sauvés par les voisins ou par les gens juste après, dans les minutes qui ont suivi, dans les heures qui suivent, avec les gens en local. Et après, derrière ça, plus le temps passe, plus l'équation du temps va être de plus en plus dangereuse et malheureusement, on va sortir de plus en plus de corps. Donc le problème de ce séisme, c'est qu'il est arrivé sur une ville importante qui fait 1 million d'habitants. On a un séisme qui est quasiment celui de la magnitude que l'on a eu en Turquie il y a 2 ans. Donc ça veut dire que faut quand même rappeler les chiffres en Turquie, c'est 50 000 morts, hein, c'est pas rien sur un pays qui était prêt avec des infrastructures, avec des possibilités de réponse. Là, en l'occurrence, on a un pays qui construit beaucoup moins haut, mais malgré tout, il y aura des victimes en nombre important. Donc moi, je pense qu'on peut avoir jusqu'à 10 000 victimes, ce serait pas étonnant. Faut espérer qu'il y en ait le moins possible. On annonce déjà 1 000, ce qui est déjà énorme.
Et dans cette Birmanie où 4 années de guerre civile ont mis à mal les hôpitaux, également les secours, vous pensez que la Birmanie peut envoyer des secours efficaces sans l'aide internationale ?
À mon avis, le sens de l'appel à l'aide internationale, il faudra toujours qu'il soit confirmé par les autorités, à savoir, est-ce que c'est un besoin humain précis ? Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'éléments. Est-ce que c'est un besoin qui peut être financier ? Ça peut être ça aussi, parce que c'est pas la première fois aussi que on fait appel à l'aide internationale, mais qu'on ferme les frontières. C'est-à-dire que l'aide internationale se limitant à de l'envoi de l'argent ou de très rares équipes qui peuvent aller sur les pays qui sont touchés. Donc c'est les autorités birmanes qui vont le décider. Moi, j'espère, par contre, que ça va peut-être une opportunité pour qu'on ouvre un peu le pays, pour qu'on puisse travailler avec eux, parce que globalement, il y a des besoins qui sont énormes là-bas, qui sont connus, identifiés, et sur lesquels des populations vivent dans des situations qui sont parfois difficiles, notamment avec le conflit actuel qui pèse dans le pays.
Évidemment. Il nous reste 30 secondes à peine. Ouvrir le pays, ouvrir la Birmanie, peut-être, par exemple, à des normes parasismiques dans le futur ?
Bah évidemment, c'est-à-dire que on a une évolution de la réglementation qui existe en Europe, mais il y a aussi une évolution de la science. Comme l'évolution, nous on comprend de mieux en mieux, autant faire contribuer tout le monde et notamment les Birmans en Asie du Sud-Est. Il y a pas mal de pays qui sont là-dessus aussi.
Merci beaucoup de ce premier témoignage, Patrick Coulombel, donc cofondateur de l'ONG Architecte de l'Urgence. Nous partons en Turquie avec encore un rassemblement contre le régime Erdogan à l'initiative du premier parti d'opposition, le CHP, parti du maire emprisonné, maire d'Istanbul, manifestants qui veulent dénoncer l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, manifestation malgré la répression qui continue de s'abattre sur les protestataires. Et on va donc sur la rive asiatique d'Istanbul, 10 jours après l'arrestation du maire et malgré les arrestations, toujours pour la population, pas question de baisser les bras. C'est un reportage de notre correspondante Marie-Pierre Véraud.
Dans les bateaux qui traversent le Bosphore vers l'Asie, dans les trains qui mènent au rassemblement, la foule scande des slogans hostiles au gouvernement et au président Erdogan. Tous agitent des drapeaux à l'effigie de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République. Des drapeaux turcs, c'est le pays qui se soulève pour ne pas mourir, dit Chibane.
C'est comme l'enfer, notre pays, hein, à cause de Tayyip Erdogan. Mais on a eu soleil. Hein. C'est İmamoğlu. Nous sommes pourquoi ? Pour démocrates. On va continuer.
Droit, loi, justice, le slogan sans doute le plus répété depuis 11 jours que dure ce mouvement de contestation. Ici, sous le soleil, dans une ambiance festive et revendicative, jeunes, moins jeunes, voilés et non voilés marchent d'un même pas. Le CHP, le parti d'İmamoğlu, entend montrer sa force et le soutien de la Turquie au maire d'Istanbul incarcéré. Tous les partis de gauche ont rejoint le rassemblement. Les syndicats sont présents en force et une foule immense qui continue d'affluer en rang serré. Demain débutent les congés de fin du Ramadan, opportunément prolongés par le président. C'est le vrai défi de ce mouvement, tenir dans la durée. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Le Danemark n'apprécie pas du tout le ton employé hier par le vice-président américain qui a vivement critiqué la supposée inaction danoise au Groenland. J.D. Vance était en visite sur la seule base militaire américaine du Groenland et il a estimé que le Danemark ne faisait pas du bon boulot, pas du bon travail pour le peuple du Groenland, en reprochant en particulier de ne pas avoir suffisamment investi dans l'immense île arctique que convoite Donald Trump.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
Il était l'une des figures de la bande criminelle de la Brise de Mer, cette organisation qui a fait trembler la Corse pendant une trentaine d'années, jusque dans les années 2000. Robert Moracini a été tué par balle ce matin devant son domicile du centre-ville de Bastia, à quelques mètres seulement de l'hôtel de police. Robert Moracini avait 65 ans, Marion Galland.
Né en juin 1959 à La Porte, les policiers considéraient Robert Moracini comme l'un des membres fondateurs de la Brise de Mer. À cette époque, les enquêteurs le soupçonnent dans de nombreuses affaires, notamment de vol à main armée. Mais Robert Moracini n'aura que rarement été condamné par la justice. Il comparaît en 1985 pour l'assassinat de Daniel Zilioli. Le procès est délocalisé à Dijon pour éviter les pressions sur les jurés, mais les témoins se rétractent à la barre et Robert Moracini est acquitté. Deux ans plus tard, il est condamné pour abus de biens sociaux à 20 mois de prison, dont 12 avec sursis. Les policiers enquêtaient sur la comptabilité occulte du bar Le Continental que Robert Moracini gérait avec sa mère. Malgré un casier judiciaire peu rempli, les autorités ont longtemps considéré Robert Moracini comme un membre actif de la Brise de Mer. Mais depuis la fin des années 2000 et la vague d'assassinats ayant décimé la bande criminelle, Robert Moracini n'avait plus fait parler de lui. La dernière fois que son nom s'était étalé à la une des journaux, c'était en décembre 2023 pour un exploit sportif. Alors âgé de 64 ans, Robert Moracini était devenu le premier Corse à réussir l'ascension de l'Everest.
Voilà pour la vie insolite de Robert Moracini. À Bastia d'ailleurs, il tenait un bureau de tabac et il s'est fait donc tuer ce matin dans le centre de Bastia. C'était Marion Galland, ici RCFM. Un probable nouveau cas de viol et agression sexuelle par soumission chimique. Ça s'est passé dans les Yvelines. Un homme de 34 ans a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir drogué d'anciennes compagnes afin d'abuser d'elle. Une information judiciaire pour viol par conjoint et administration de substances nuisibles a été ouverte. Aurélien Tirard.
Toutes les victimes ont les mêmes souvenirs, revivent les mêmes cauchemars, des flashs où elles se revoient être violées, étranglées, alors qu'elles sont complètement incapables de bouger, de parler, de protester. Des témoignages jugés cohérents et similaires par les enquêteurs qui les ont entendus. Toutes ont été en couple avec cet homme qui, selon leur récit, les droguait pour abuser d'elle pendant qu'elle dormait profondément. Un homme aujourd'hui au chômage, ancien apprenti policier, qui n'hésitait pas à exhiber un badge siglé de la police pour les impressionner, mettre en confiance ces femmes dans son ordinateur. Et dans son téléphone, les enquêteurs sont tombés sur de très nombreuses vidéos, des captures d'écran mettant en scène les victimes, filmées alors qu'il était en train d'abuser d'elle pendant qu'elle dormait profondément. Sa compagne actuelle, dont les viols dénoncés sont les plus récents, a fait des analyses sanguines et urinaires afin de détecter la présence de substances chimiques dans son corps.
France Inter, vous le révélait hier à propos des abus sexuels au sein de l'Église. 18 évêques au moins ont manqué à leur devoir d'alerte, alors qu'il existe désormais une procédure d'alerte et de transparence. À deux jours de l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, l'Église en fait-elle suffisamment pour réparer les traumatismes? Eh bien, écoutez ce qu'en disait ce matin Antoine Garapon, ancien juge pour enfants, devenu membre de la CIAS, la Commission indépendante pour les abus sexuels dans l'Église.
C'est un coup de tonnerre pour l'Église et il me semble que l'Église, on peut lui rendre grâce de sur ce point de vue, elle a fait le job, du moins elle a essayé de le faire. Elle a payé beaucoup en réputation, elle a payé beaucoup financièrement. Si vous faites du mal à quelqu'un et que vous lui dites « Oh, je suis navré, excusez-moi, au revoir », et si vous lui dites la même chose mais que vous payez 40 000 euros, eh ben, ce que vous dites n'a pas le même sens. L'argent, c'est ce qui alourdit la parole de reconnaissance. Ça veut dire que c'est sérieux. Et c'est d'autant plus sérieux que je peux vous dire que pour voir ça de près depuis maintenant 3 ans et demi, c'est difficile pour les congrégations. Il y en a qui ferment des bâtiments, il y en a qui vendent pour payer, pour financer. Pour Bétharam, c'est un enjeu majeur. Ça menace leur existence même. L'Église a payé des millions. Donc, si vous voulez, peut-être que d'autres secteurs de la société française seraient bienvenus de s'inspirer de ce qu'a fait l'Église.
Antoine Guérapon, invité il y a quelques heures de la matinale d'Inter, et à propos des abus sexuels au sein de l'Église, je vous renvoie à l'enquête de Delphine Evenou sur franceinter.fr. Le football à Saint-Etienne, avec ses deux groupes de supporters ultra, les Green Angels et les Magic Fans, sous la menace d'une dissolution. La décision dépend encore du ministère de l'Intérieur, qui leur reproche des violences il y a plusieurs années, des outrages, des chants homophobes, l'usage de pyrotechnie, les griefs qui s'étalent sur 5 pages. Les supporters stéphanois sont réunis ce matin devant le stade Geoffroy Guichard. Tom, il est le porte-parole des Green Angels.
Bruno Retailleau est seul contre tous. Aujourd'hui, quand il y a une mobilisation de plus de 163 groupes qui signent un communiqué, et je dis bien 163 groupes de supporters, parce que du coup, il y a des ultras, mais il y a aussi bon nombre de groupes qui sont non-ultras. On a eu des problèmes de cris de singe, on a eu des problèmes de salut nazi. Depuis combien de temps il n'y a pas eu un incident qui a été médiatique? Et derrière, est-ce qu'on a eu des problèmes avec des banderoles où on a insulté l'arbre généalogique d'un joueur adverse? Ce dossier est réellement à charge puisqu'on a une définition qui se rapproche du hooliganisme et nous, on n'est absolument pas dans cette mentalité-là.
Ça se passe en ce moment. Le soleil partiellement caché par la lune. Vu de France, le phénomène doit durer encore une vingtaine de minutes. Et c'est en Bretagne que les amateurs peuvent voir la plus grande éclipse à 35% de grignotage environ. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. C'est à Montpellier, dans un garage automobile imaginé par des femmes, pour les femmes, baptisé les Déculassées. Ce garage se revendique féministe et il propose des cours de mécanique aux femmes, donc. Déjà près de 3000 élèves sont passés par ce garage, non pas des mécanos, mais des mécanas. Elles veulent développer le faire soi-même pour des pannes sans gravité et c'est bon pour le porte-monnaie. Elles veulent aussi déboulonner les clichés.
Cécilia, par exemple, au niveau mécanique, c'est carrément pathétique. C'est elle qui le dit, mais d'abord elle se gare.
Braque, doucement, contre-braque, parfait.
Et donc,
je mettais du liquide de pare-brise dans le liquide de refroidissement, ou l'inverse. J'avais le liquide de refroidissement qui était sur le pare-brise.
Pardon ?
Oui. 55 ans, je pense que c'est le moment là de savoir ce qui se passe sous le capot là.
Alors, on y va, mais d'abord, faut s'asseoir.
Nous avons un super beau schéma de moteur. Haut moteur, bas moteur, culasse, bloc moteur.
2 heures de théorie, Cécilia va tout noter sur son cahier.
Soupape, culasse, courroie de distribution et le circuit de liquide de refroidissement.
Vous allez crâner après?
Ouais, je vais crâner à fond.
Sauf que ça se complique.
Alors on va peut-être se séparer en 2 groupes.
Quel est l'exercice là?
C'est de reconnaître les pièces que je leur ai montrées. Par exemple la courroie d'accessoires avec l'alternateur, les bougies, la batterie, repérer un peu comment est foutu le moteur.
Votre prénom ?
Nathalie.
Nathalie accroupie. Vous cherchez quoi, là ?
Comment ouvrir le capot.
Ça démarre très fort.
C'est quelque part par là. Ah, voilà.
Capot d'à côté.
Je trouve le liquide de refroidissement et le liquide de glace, et basta.
Ça, c'est quoi ?
Ça, j'imagine que c'est le moteur.
J'imagine que c'est le moteur ?
Oui.
Vous en êtes là ?
Oui.
Presque toutes.
Ça nous fait marrer. On est à 6 cerveaux pour essayer de trouver une batterie.
Moi, j'invite toutes les femmes à venir. On doit être capable aussi de se débrouiller, de ne pas avoir besoin d'un mec.
Pas avoir besoin d'un mec.
Mais oui, on peut aller mettre les mains dans le cambouis aussi.
Pince croco.
Ma batterie, elle est fatiguée. J'ai laissé mes phares allumés toute la nuit. Du coup, en électricité, plus c'est rouge, moins c'est noir. Ok ?
Je fais quand même démarrer.
Ouais.
C'est bon là, hein ? On est bon ?
Hakuna, animatrice et mécanicienne.
Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point elles sont concentrées.
Mais souvent, hein, parce que ça fait des lumières dans le cerveau, quoi. C'est tellement inaccessible, la mécanique. Personne ne prend le temps de te montrer comment est foutu ton véhicule, en fait. Les mécaniciens, les garagistes, personne ne va prendre le temps, en fait, de t'expliquer.
Mécanique auto, c'est une langue étrangère.
Oui, exactement. En fait, quand tu vas dans un garage et qu'ils te disent « changer le démarreur », bah, des fois, c'est quoi un démarreur ? Ça... Voilà. Quand on utilise un langage un peu spécifique, si tu comprends pas, t'es largué, quoi.
Fière, Cécilia, là ?
Ben oui, ça progresse.
C'est pas si difficile, en fait, tout ça.
Ben non, mais il faut s'y frotter, en fait.
Il faut s'y frotter. Eh bien, demain, elles se frotteront au changement de roue. Ce sera donc dans le second épisode des Bonnes Ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On aura cet après-midi toujours une France coupée en deux.
Oui, avec à l'ouest et au nord un ciel calme et une alternance de nuages et d'éclaircies. Et puis à l'est et au sud, encore un ciel perturbé de l'Alsace à la région PACA jusqu'au Massif central et aux Pyrénées. Avec un petit peu de neige sur les reliefs, des averses possibles en plaine. On aura quand même le retour localement de quelques éclaircies. Et puis le ciel sera plus calme et plus lumineux aussi sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Et ça, c'est grâce au vent qui va chasser les nuages, mais qui va bien souffler. Mistral et Tramontane qui soufflent d'ailleurs depuis quelques jours déjà et qui vont se renforcer cet après-midi. On parle de rafales à plus de 110 km à l'heure. On pourrait même atteindre les 120-130 km à l'heure pour la Tramontane. Et puis on pourrait également avoir quelques averses orageuses entre la Côte d'Azur et la Corse.
Et les températures baissent un petit peu.
Oui, alors c'est une baisse ponctuelle hein, parce que ça va remonter déjà dès demain. Et la semaine prochaine, l'ambiance sera vraiment printanière l'après-midi, hein, 19-20 degrés du nord au sud. Mais aujourd'hui, on a une moyenne qui va de 11 à 15 degrés, 13 à 20 près de la Méditerranée.
Les prévisions météo de Céline Dacosta.